Qu'est-ce que vous voulez, Madeleine? Dites-moi ce que vous voulez. Vous voulez la lune, peut-être? Vous n'avez qu'à la demander. Je l'attraperai au lasso et je vous la descendrai. C'est une magnifique idée. Je vais vous donner la lune, Madeleine.
La vie est belle de Frank Capra sortait en salle en 1946 et c'était prophétique car la vie serait belle. En tout cas, c'est le souvenir qu'on en garde aujourd'hui, Zoom ce vendredi, sur cette période qu'on appelle les 30 Glorieuses. Bonjour Vincent Martini.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Vincent, vous êtes historien des idées, politiste, professeur à l'université de Nice et à l'école polytechnique, membre du comité de rédaction de l'hebdomadaire Le 1. Je le signale, excellent hebdomadaire. Merci et beaucoup. Vous venez de diriger un collectif baptisé Les Temps Nouveaux, en finir avec la nostalgie des 30 Glorieuses, qui est sorti aux éditions du Seuil. Parmi les co-auteurs de ce livre, on trouve ce bon vieux François Gémen, qu'on embrasse, Dominique Méda, Laurent Berger, ou encore cette bonne vieille Maya Mazorette, qu'on embrasse aussi. Alors, allons-y franco, comme on disait à l'époque. Pourquoi est-ce qu'il faut en finir avec ce que vous appelez la nostalgie des 30 Glorieuses, Vincent Martini?
Il faut en finir parce que c'est devenu un passé qui finit par étouffer le présent. C'est-à-dire que cette obsession pour la reproduction des conditions d'un monde qui, pour le meilleur et pour le pire, a disparu, eh bien, nous conduit à prendre des choix qui contreviennent, je crois, à la période dans laquelle nous vivons, parce que cette période, et c'est ce qu'on essaie de dire dans ce livre, c'est pas tant une façon d'enterrer les 30 Glorieuses que de dire que notre période, elle est pleine aussi de promesses, et que le présent, il a aussi des satisfactions. Il y a une formule que je répète souvent sur ce livre, c'est de dire qu'on ne supporterait pas 15 jours en 1946, en réalité, si on pouvait retourner, mais même pas en 55, même pas en 75, et qu'il vaut mieux vivre à l'époque dans laquelle nous vivons. On essaie d'expliquer pourquoi.
Fantasme-t-on un peu trop la prospérité des 30 Glorieuses? Est-ce que c'était si batte que ça de grandir dans la France de Pompidou? Notre rédacteur en chef Cyril Lacarrière buvait-il vraiment du vin à la cantine le midi quand il était en 5e? Zoom zoom back, spécial 30 Glorieuses, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans Zoom Zoom Back. Chaque vendredi, on troque nos mots compliqués, plus ou moins dans l'air du temps, puisque c'est vrai que dernièrement, on a quand même fait agence matrimoniale, pour zoomer sur une année marquante de l'histoire. Aujourd'hui, direction 1946. Alors qu'elle est sur un nuage dans les bras de son nouvel amant, Cyril Lacarrière, Édith Piaf lui dédie... La vie en rose, comme une prophétie, pas pour Édith malheureusement, mais pour la France qui va connaître une période de croissance et de progrès social qu'on appellera plus tard les 30 Glorieuses, en âge d'or un peu trop fantasmé selon notre invité qui va nous expliquer pourquoi il faut arrêter d'en faire des caisses avec cette nostalgie des 30 Glorieuses. Et on va donc se focaliser sur l'année inaugurale de cette période, 1946, les débuts de la 4ème République, ce régime instable où les gouvernements se succédaient à toute vitesse. Tout ça paraît si loin aujourd'hui.
France Inter. Zoom zoom zen. Mathieu Noël.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, Vincent Martini, je vous présente mes précieux acolytes qui ont chacun une chanson de 46 qui leur ressemble vraiment. À vos côtés, alors qu'elle peine encore à se remettre de l'accord mévin qu'elle a tenté hier soir dans un restaurant gastronomique de l'Est parisien, on sait tous ce qu'elle se dit.
J'ai dû boire un peu trop ce soir. Je crois que vous voulez savoir.
Luc Barnet.
Ah ouais.
Hey, un tube prophétique pour vous, Manon,
c'est
finalement.
C'est
un peu. Écoutez, téléchargez-la. C'est l'histoire
vous
de votre vie.
Un peu pareil, donc c'est bien.
Manon, ça c'est vraiment.
Ça c'est grave.
C'est changement juste, mais.
Manon Mariani, chaque vendredi, vous revenez sur une première fois.
Et en 1946, un vêtement un peu particulier a vu le jour pour la première fois, le bikini. À l'époque, ce maillot de bain iconique n'a pas été bien accueilli du tout. Des femmes trop dénudées sur les plages, un scandale pour la société de l'époque.
Face à vous, Vincent, il n'est évidemment pas né en 1946, mais une de ses idoles, elle, l'était.
La belle de Calique a les yeux de velours.
Il a longtemps rêvé de devenir Luis Mariano.
Quel coffre
ce Luis, hein. Quentin, finalement, vous êtes rabattu sur journaliste, spécialiste archive le vendredi, puisque vous êtes promené à l'INA.
La démission du général, la 4ème République, l'après-guerre et la fermeture des maisons closes, retour dans la prochaine demi-heure en 1946.
Camille Diao et Charles Nouveau nous rejoindront également tout à l'heure, mais il est temps de le remonter, justement, jusqu'en 1946, un an après la guerre, s'ouvre une période florissante pour l'économie, qu'on appellera plus tard les 30 Glorieuses, ça c'est ce qu'on a appris à l'école. Qu'en est-il vraiment? C'est ce qu'on va demander à notre invité, l'historien Vincent Martini, qui sort Les Temps Nouveaux, en finir avec la nostalgie des 30 Glorieuses aux éditions du Seuil. Vincent, avant de parler de cette nostalgie, revenons en 46 tout simplement. Quel est le contexte politique, social de la France? Je le disais, on sortait tout juste de 6 années de guerre.
Le contexte politique-social, il est épouvantable, puisque on vit dans un pays un tiers détruit, hein, puisque toute la frontière avec l'Allemagne, mais aussi la Normandie, qui a beaucoup souffert du débarquement, mais y compris surtout la façade atlantique, hein, toutes ces parties-là ont été très largement détruites. Il y a des villes comme Royan, évidemment, comme Le Havre, on le sait, qui ont été complètement rasées. Vous avez plusieurs millions de sans domicile fixe, et vous avez tout à reconstruire. Un pays, on disait, il y a eu un film très célèbre qui s'appelait Allemagne année zéro. La France était peut-être en année 2 ou 3, mais pas beaucoup plus. Donc il faut imaginer que quand on parle des Trente Glorieuses, 46, c'est vraiment un point d'entrée en
réalité.
C'est
l'année zéro.
C'est l'année zéro. Tout arrivera ensuite. C'est vraiment dans les années 50 et 60 que la grande prospérité interviendra. C'est aussi une société qui est hantée quand même par le spectre du déclin, qui a compris que, en réalité, ce qu'a été la France avant la guerre, c'est terminé, et probablement pour toujours. Mais c'est aussi une France qui est porteuse d'espoir. On met en place les structures de l'État-providence. On commence à réfléchir déjà à ce qui va devenir la communauté économique européenne, l'Union européenne. Et on a participé à la création de l'ONU. Donc tout ça, c'est vraiment une dimension qui porte aussi déjà des germes d'avenir.
Pour rappeler juste, tout ça se fait très vite. Quand on dit l'État-providence, il s'est mis en place en 46.
45, 46.
Tout est fini. Tout est posé.
Tout est posé. Au fur et à mesure, il y a des progrès qui vont s'accomplir parce que les Trente Glorieuses, la raison pour laquelle aussi les gens, pas fantasment, mais je crois en nostalgie, dont une partie d'ailleurs, hein, je ne suis pas en train de dire le contraire, est justifiée, c'est qu'il y avait une perspective d'avenir. Quand ça va très mal, vous
ça
savez que
mieux.
Les prochaines années iront mieux. On va reconstruire. Le plan Marshall va se mettre en place très rapidement avec l'aide américaine par milliards de dollars. Et donc, on sait que de toute manière, les choses vont aller mieux. Que finalement, la France, en 1946, on le sait, fait plutôt partie des gagnants de la guerre, ce qui n'était pas évident, puisque, comme on le sait, bien pour les raisons de collaboration avec l'Allemagne, le régime de Vichy a fait que c'était moins une pour que finalement la France se retrouve dans le camp des vaincus. Hein. Il a été question de partager la France comme on partageait l'Allemagne entre zones d'occupation alliées. Finalement, grâce au général de Gaulle, elle sera à Yalta, elle partagera le monde, elle participera aussi à la partition de l'Allemagne. Mais tout ça n'était pas évident. Et quand, à l'intérieur, encore une fois, c'est une société quand même incroyablement morcelée, très divisée par ce qu'a été la guerre, avec des règlements de compte en 1945 sur les collaborateurs, les gens qui ont collaboré de différentes manières, et un ordre social quand même qui est incroyablement étouffant. Hein. Cette génération de la guerre, elle a beaucoup souffert. Certes, elle veut s'amuser, mais pas dans les conditions qu'on connaît aujourd'hui.
Vous dites aussi qu'en 1946, les appareils ménagers sont inexistants, le chauffage central et la distribution d'eau chaude rarissime en dehors des beaux quartiers, les logements sans WC étaient la norme. Ce qui est vertigineux, c'est qu'à l'échelle d'une ville, les Français ont connu des changements phénoménaux. C'est ça aussi peut-être qui explique les Trente Glorieuses, c'est qu'on est parti de rien pour s'embourgeoiser, entre guillemets, avec le confort.
Alors, il y a un épisode qui raconte exactement ce que vous êtes en train de dire. C'est l'origine de l'expression « étrange glorieuse », elle vient d'un livre, je ne veux pas embêter vos auditeurs avec ça, de Jean Fourastier, qui s'appelle « Les Trente Glorieuses » ou « La Révolution invisible ». Et donc, l'introduction de ce livre est fascinante, hein, j'invite vos auditeurs à la lire, ne serait-ce que ce bout-là, où il raconte deux villages. Hein, deux villages, qu'on comprendra que c'est des villages imaginaires, hein, un qui s'appelle Quessac et l'autre Douel. Et donc ces deux villages, il y en a un qui vit comme au Moyen-Âge, en gros, pas d'eau courante, pas d'électricité, pas d'évident, pas de télévision, pas de modernité, les gens sont des vieillards à 40 ans, etc., etc. Et un autre village qui est tout l'inverse, qui ressemble beaucoup plus à notre modernité. Et en fait, ces deux villages, disent, sont des villages imaginaires, c'est le village où lui a grandi, hein, dans le Lot, en 1945 et en 1975. Et il dit, pour comprendre qu'en 30 ans, on a fait plus de progrès qu'en 5 siècles. C'est-à-dire qu'en 1945, la France vit très largement comme au 19e siècle, hein, à tous les niveaux de la population. En 1975, on est passé dans une forme de modernité. Et tout ça en un temps record.
Retour donc sur 1946, l'année zéro des Trente Glorieuses, un tube de 46 forcément dans ce Zoom Zoom Black. On revient juste après Route 66, Nat King Cole sur Inter.
If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway that's the best. Get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to LA, more than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty. You'll see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Barstow, San Bernardino, won't you?
get hip to this timely tip. When you make that California trip, get your kicks on Route 66.
Zoom Zoom Back spécial 1946 cet après-midi. 1946, le départ, le top départ en tout cas des 30 Glorieuses. On en parle avec l'historien Vincent Martini qui a dirigé un énorme travail de recherche sur cette période. Ça s'appelle Les Temps Nouveaux, en finir avec la nostalgie des 30 Glorieuses. Ça vient de paraître au Seuil. Vincent, avant de revenir sur ce qui s'est passé pendant ces 30 années, déjà un point sémantique. À partir de quand on a parlé des 30 Glorieuses? C'est le livre de Fourastier dont vous nous parliez.
Qui est sorti en 1979.
79, c'est là que l'expression...
Oui, on n'en parle pas du tout avant en fait. L'expression, elle apparaît vraiment à toute fin de la période quand elle se termine, hein, c'est-à-dire après les chocs pétroliers, lorsqu'on rentre dans un autre monde et qu'on constate de manière rétrospective ce qu'a été ces 30 années. On savait, lorsqu'on les vivait à partir au moins des années 50 et 60, que cette période de prospérité, elle voulait dire quelque chose et qu'elle représentait un moment quasiment sans précédent dans l'histoire de l'humanité.
Mais les historiens, personne n'avait mis de mots dessus. Il n'y a pas eu d'autres mots avant 30 Glorieuses.
Pas à ma connaissance. Mais comme, encore une fois, vous dites très généreusement que je suis historien, mais comme moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les phénomènes politiques. Je suis un politiste plutôt.
Politiste avant tout.
Ce livre, il n'est pas tant un livre d'histoire sur la nature des 30 Glorieuses qu'un livre sur comment est-ce que la nostalgie des 30 Glorieuses parle d'aujourd'hui.
Oui, évidemment. C'est ça.
Là, du coup, les gens les gens ne se rendaient pas compte à l'époque de ce qu'ils étaient en train de vivre.
Si, je pense que si. On a beaucoup de témoignages, d'ailleurs, dès les années 50, quand même, du sentiment d'abondance matérielle. Et encore une fois, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, lorsque vous passez, j'allais dire, d'une vie qui ressemble beaucoup à celle du début du siècle, voire du 19e siècle, à une vie de transformation rapide, pas seulement de biens matériels sur le moment. Évidemment, il y a l'apparition des premiers supermarchés dans les années 60.
C'est énorme, ça, l'apparition.
C'est énorme. C'est les aides ménagères, la transformation de la vie des femmes, qui portait, évidemment, l'essentiel de la vie domestique. Tout ça a beaucoup transformé les choses. Mais il y a une autre dimension très importante. C'est que des gens qui étaient dans la misère ou dans la pauvreté, grande partie des familles, hein, c'était le cas de la mienne par exemple, eh bien tout d'un coup ont des perspectives d'évolution rapide, c'est-à-dire que en économie on appelle ça le taux de rattrapage. Quel est le temps moyen entre qu'un ouvrier puisse devenir un cadre, hein? Jusqu'en 1975, on est arrivé à 30 ans, c'est-à-dire dans une seule vie, vous pouvez passer de ouvrier à cadre. Aujourd'hui, juste pour,
oui, c'est ça,
c'est 220 ans. C'est-à-dire que statistiquement, un ouvrier n'a plus aucune chance de devenir cadre dans le cours de sa vie.
Donc cette nostalgie, vous pouvez la comprendre.
C'est, ah mais absolument, nous comprenons très bien, et moi et mes co-auteurs, la nostalgie pour une période, et surtout une nostalgie individuelle. Ce que nous critiquons, c'est l'idée que cette nostalgie soit devenue un récit politique, qui est un récit politique de crise perpétuelle. C'est-à-dire, nous regardons dans le rétroviseur en disant, il faut qu'on recommence à restituer exactement les mêmes conditions.
Or, on ne peut pas parce que le contexte a changé.
Le contexte a changé d'abord parce que nous vivons dans un monde limité, d'abord parce qu'il y a des changements structurel de notre société, qui fait que nous pouvons recréer des conditions de nouvelle prospérité. Ça, nous le pensons. Mais nous pensons que ça doit être en fonction des critères d'aujourd'hui, dans notre époque, et arrêter de se dire que les 30 Glorieuses, qui ont été une parenthèse glorieuse, avec plein d'aspects, pas que des aspects positifs d'ailleurs, eh bien, sont à reproduire tel quel.
Mais Vincent Martini, vous faites un parallèle intéressant avec la belle époque. Est-ce que c'est comparable aux 30 Glorieuses? Et est-ce que ça veut dire qu'il faut vivre une bonne guerre pour être heureux après?
Non, il y a une différence avec la Belle Époque, c'est que les gens qui fantasmaient sur la Belle Époque historiquement étaient plutôt les intellectuels et les classes aisées. C'est-à-dire des gens qui pouvaient se permettre le luxe de la nostalgie. Là, la différence avec les 30 Glorieuses, c'est qu'une grande partie de la population a vraiment directement bénéficié. Pas tout le monde, hein, on en parle dans le livre, les femmes, beaucoup moins que les hommes, les immigrés, beaucoup moins que les Français, et les ouvriers, beaucoup moins que les classes moyennes. Mais pour autant, quand même, il y a eu des retombées, j'ose pas dire un ruissellement, des 30 Glorieuses sur toute la population. Ça fait une différence parce que beaucoup plus de gens qui aujourd'hui sont encore vivants pour la plupart, et heureusement pour eux, ont pu bénéficier de cette époque. Mais attention, parce que je reçois déjà beaucoup de commentaires de gens qui disent « Moi, j'ai connu les 30 Glorieuses, c'était pas si exceptionnel que ça. » Il y avait plein de choses qui n'allaient pas du tout. C'est pour ça que j'insiste sur cette idée. Aujourd'hui, nous ne voudrions pas revenir dans les 30 Glorieuses.
Souvent, lui, il se dit qu'il n'est pas né à la bonne époque. Déjà, parce qu'en 1946, son bouc n'aurait pas été aussi ridicule.
Peut-être. Attends, même, rassurez-moi, ça repousse un peu.
Peut-être même qu'il serait passé crème.
À côté, non ?
Ça repousse
un
petit peu à côté, mais c'est. On voit que le bouc est quand même très visible.
On verra lundi.
Le bouc saute encore au visage, je dirais. Surtout, il se dit qu'en 1946, c'était la bonne année pour lancer sa tasse Loup-Cigalou, qui fait le bruit des cigales quand on boit. Mais Quentin n'est pas du genre à vivre dans le regret. Il regarde toujours droit devant lui, sauf le vendredi, où il retourne à l'INA.
Le 10 octobre 1946, le verdict du procès le plus important de l'histoire.
À Nuremberg, aujourd'hui, la justice passe. Dernier acte d'un procès gigantesque qui exigea plus de 300 audiences et qui demeurera le procès de l'histoire. Et 12 fois, l'on entendra la parole fatidique pour Keitel, la mort par pendaison. Pour Göring, la mort par pendaison. Nuremberg sera maintenant le nom d'une justice qui n'est pas l'expression de la vengeance, mais d'une morale plus haute. Au-dessus des maîtres du siècle, il y a une justice.
Hermann Göring se suicide la veille de son exécution. Il parvient à se procurer une capsule de cyanure et se donne la mort dans sa cellule, évitant ainsi la pendaison. Nuremberg a posé les bases du droit international en matière de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. En France, c'est le bordel politique.
De Gaulle s'en va. De Gaulle quitte la présidence du gouvernement. Voici 2 semaines, il s'était donné à Antibes devant la mer les premiers jours de vacances qu'il ait pris depuis 1939. À Neuilly, aux abords de la villa du général de Gaulle, une autre animation régnait. La police protégeait la tranquillité de celui qui, après 6 ans de combats et de luttes, décidait d'abandonner le pouvoir.
Depuis la libération, le général de Gaulle dirigeait le gouvernement provisoire et organisait le retour à une vie démocratique, dont 3 grands partis dominaient, le PCF, la section française de l'Internationale ouvrière et le mouvement républicain populaire. Ils forment une alliance appelée tripartisme. Mais des désaccords apparaissent. Tiens, c'est marrant comme l'histoire résonne parfois. De Gaulle, partisan d'un État fort avec un exécutif puissant, se heurte aux partisans d'un régime parlementaire où le pouvoir est davantage entre les mains des députés. À Bayeux, en juin, il tient ce discours. Écoutez bien.
Du Parlement ainsi composé de 2 chambres, il est clair que ne peut pas et ne doit pas procéder le pouvoir exécutif, sous peine d'aboutir à cette confusion des pouvoirs. C'est du chef de l'État que doit procéder le pouvoir exécutif.
Et ce sont les bases de la Ve République qui verra le jour 12 ans plus tard, en 1958. Un Charles peut en cacher un autre, et ce Charles enregistre cette merveille en 1946.
La mer qu'on voit danser le long du golfe clair.
Puisqu'on parle de la mer, à partir du 20 septembre dans le sud de la France, une première.
Je déclare ouvert à Cannes le premier Festival international du film.
Il devait avoir lieu en 1939 pour concurrencer la Mostra de Venise, mais à cause de la guerre, le premier festival de Cannes s'est tenu en 1946. Les premières récompenses seront pour David Lean, Roberto Rossellini ou encore Alfred Hitchcock. Tout autre sujet, le 5 avril, le procès d'un docteur, tueur en série à Paris.
Il faut croire que le crime garde une fascination. Dans le monde entier, le docteur Petiot fait aujourd'hui autant de bruit que naguère le fameux Landru. Du Judas, où il assistait à l'agonie de ses victimes, de la chaudière où il brûlait leurs restes. Petiot est un monstre. Mais à Villeneuve-sur-Yonne, où il fut docteur, où il fut maire, son souvenir demeure. Un passé dont on ne sait pas tout d'ailleurs, car les petites villes ont leurs secrets.
Hey, Marcel Petiot, ancien maire et docteur d'un petit village de Lyon, reconnu coupable d'avoir tué au moins 27 personnes pendant la guerre à Paris, il promettait aux personnes juives un passage clandestin vers l'Argentine. En fait, il les tuait une fois arrivés chez lui, avec leurs valises et leurs affaires de valeur, avant de les brûler dans sa chaudière. 1946 est marqué par le nom d'une loi, pas n'importe laquelle, la loi Marthe Richard. Elle, qui s'était prostituée à l'âge de 16 ans à Nancy, est élue politique à Paris après la guerre. Elle a fait fermer 1500 maisons closes.
La loi contre la prostitution. Pas contre la prostitution, j'ai jamais été contre, on peut pas être contre, parce que on peut pas l'empêcher. Mais enfin, c'est la loi sur les maisons closes.
Vous avez l'impression que ça a fait progresser le problème ?
Oui, oui, monsieur. Aujourd'hui, on peut se promener dans les rues de Paris sans tout de même rencontrer des prostituées comme on en rencontrait dans mon époque quand j'ai fait fermer, parce qu'il y avait les femmes qui avaient un bout de trottoir et qui se promenaient entre 2 becs de gaz et qui raccrochaient les gens. Ben maintenant, on les voit plus, c'est fini. Et la rue est propre.
Pour terminer, l'histoire d'un premier rendez-vous à Londres.
Au rendez-vous de la paix, 51 nations sont accourues. Et ce sont les délégués de 51 nations qu'au palais Saint-James, le roi George VI a rassemblés sur une sorte de terrain neutre. Et puis, au Central Hall, la première réunion s'est ouverte sous le signe des Nations Unies.
C'était tout simplement l'inauguration de l'ONU. Alors pourquoi l'ONU se trouve-t-elle désormais à New York alors qu'elle a été inaugurée à Londres ? Eh bien parce qu'en 1946, un certain Rockefeller a fait un don de 8,5 millions de dollars pour acheter un terrain à New York, une ville stable où installer le siège de ces nations enfin unies. C'est sur cette paix mondiale qui n'a pas duré que je referme ce complètement aux archives.
Et sans l'ONU, je n'aurais jamais existé, Quentin.
Imaginez, c'est vrai, vos parents.
Pour l'humanité, oui, ça aurait été terrible. Mes parents à New York,
oui, le
évidemment.
Monde de la radiophonie,
évidemment. Le monde de la radiophonie n'aurait pas été le même, tout simplement. Plus sérieusement, Vincent Martini, on a entendu le général de Gaulle qui pose les fondations de la Ve République, quelque part, dès 46, 12 ans avant de revenir au pouvoir. C'est un architecte, évidemment, des Trente Glorieuses, le général de Gaulle.
Ah bah oui, oui, puis c'est un sujet qui me passionne particulièrement. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention parce que mon précédent livre s'appelait « Le retour du prince ». Moi, si je suis militant de quelque chose, c'est militant contre le présidentialisme. Je pense que c'est une énorme erreur. Mais le général de Gaulle la pose un ordre politique sans aucun doute. Il faudra 12 ans pour le faire. Comme quoi, en politique, quand on veut quelque chose, il faut le prendre. Parce que si on croit qu'on va vous rappeler, vous pouvez attendre longtemps.
Il a quand même démissionné, c'est courageux.
Mais ce qui est intéressant, oui, probablement, ce qui est intéressant, c'est surtout qu'un nouvel ordre peut jaillir d'un sentiment de chaos. Parce que ce que vous n'avez pas eu le temps de dire, et c'est normal, c'est que l'ambiance généralisée en 1946, c'est une ambiance quand même globalement de déclin. L'empire colonial est en train, hein, même si c'est en cours de route, le début de la guerre d'Indochine, les événements de Sétif en Algérie. On voit bien quand même que ce monde, il va disparaître. Mais vous avez des gens qui s'accrochent à l'ancien ordre social. Et c'est ça qui est intéressant pour nous, pour comprendre la théorie du changement social. C'est un nouvel ordre peut naître d'un sentiment de chaos. Mmh. Toute comparaison avec aujourd'hui, évidemment, n'est pas fortuite. Et que deuxièmement, pour qu'un ordre social nouveau puisse prendre la place de l'ancien, il faut que les tenants du nouvel ordre fassent comprendre à ceux de l'ancien qu'on ne va pas les détruire, qu'on ne va pas les annihiler. Et ça, c'est très important, je crois, pour vos auditeurs, qui est de dire, c'est pas un livre qu'on a écrit contre les Trente Glorieuses. C'est un livre pour dire, il y a plein de choses incroyables qui sont arrivées dans les Trente Glorieuses. Simplement, nous sommes aujourd'hui en 2025, c'est-à-dire 40 ou 50 ans après la fin des Trente Glorieuses. Bah, il est peut-être temps d'inventer justement cet ordre nouveau. Alors, probablement pas comme le général Le l'aurait voulu en 1946, mais avec les termes qui sont ceux de nos jours.
On se replonge donc dans les Trente Glorieuses avec l'historien Vincent Martini, qui sort cet ouvrage collectif qu'il a dirigé, Les Temps Nouveaux, en finir avec la nostalgie des Trente Glorieuses aux éditions du Seuil. Vincent, dans ce livre, vous explorez plusieurs aspects des Trente Glorieuses et vous les remettez en perspective, on l'aura compris. Ce qui ressort, c'est que les Trente Glorieuses sont avant tout un mythe.
Oui, c'est un mythe, c'est-à-dire une histoire que nous sommes racontés collectivement. Les mythes ont toujours une part de réalité, évidemment, c'est-à-dire que, je le disais tout à l'heure, il y a toute une partie de la population française qui est sortie de la misère ou de la pauvreté, qui a pu s'élever, qui a eu des perspectives, mais surtout, et ça je crois que c'est un sujet absolument central, c'est une période dans laquelle il y avait une perspective de futur. Et ça, s'il y a une crise aujourd'hui, de nos jours, et c'est pour ça que j'écris ce livre, c'est qu'il y a une crise du futur. On est paralysé à la fois par le catastrophisme écologique et par... une forme de sentiment à la fois de culpabilité et de paralysie qui est liée au fait que bah, demain, ça sera catastrophique, donc que faire ? Et avec ce sentiment qu'individuellement, nous ne pouvons rien faire, que Cyril Dion avait beau nous dire que nous sommes tous des colibris avec notre petit eau, mais que les gens n'y croient pas forcément. Et donc, on essaye de dire, mais en fait, il y a possibilité d'inventer des récits, il faut qu'on réfléchisse en termes d'imaginaire pour pouvoir poser les bases, justement, de ce qui pourrait être un mythe équivalent, mais avec, encore une fois, les conditions d'aujourd'hui.
Mais justement, dans votre livre, le chercheur François Gémen parle de l'insouciance environnementale des Trente Glorieuses. On s'en foutait complètement du climat à cette époque.
Ah oui, totalement. Ouais. Ça, c'est un sujet intéressant. Bon, évidemment, les gens le savent assez bien, mais le rapport Meadows qui sort en 72 dit déjà tout ce qui va nous arriver. Oui. Hein. Vous avez le fameux René Dumont qui montre un verre d'eau en disant un jour cette eau sera précieuse. Hein. Aujourd'hui, Barcelone est presque une ville sans eau. Hein. Sanaa au Yémen l'est depuis une quinzaine d'années. Donc, les stress hydriques, etc., pendant des périodes importantes, les coupures d'eau dans énormément de territoires mondiaux, tout ça, c'est maintenant. Et donc, à ce titre-là, c'est vrai que l'environnement a fait l'objet d'une insouciance probablement coupable, mais surtout aujourd'hui, elle est devenue un enjeu absolument fondamental. Mais à mon avis, on ne la traite pas de la même manière.
Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on consomme parce qu'on y est habitué. On a la consommation un peu honteuse, en tout cas dans nos pays, en Occident. À l'époque des Trente Glorieuses, c'est aussi la grande différence, c'est qu'on avait la consommation glorieuse. Ouais. On était tellement contente de découvrir des produits, de consommer sans savoir. On n'avait pas de mauvaise conscience, en fait, à consommer.
Il n'y avait pas de mauvaise conscience. Il y a une publicité qui est sortie, pas pendant les Trente Glorieuses, mais il y a une trentaine d'années pour un opérateur téléphonique qui s'appelait Imaginez un monde sans limite. Je crois qu'on a donné ce titre à un des chapitres parce que ça m'amusait beaucoup, parce que le monde sans limite, c'était évidemment à l'époque de pouvoir, enfin pas à l'époque, mais il y a 30 ans, de pouvoir téléphoner pendant 100 000 heures à vos meilleurs copains. Ce qui, dans la logique d'un monde sans limite, est quand même. Mais qui montre. Là, encore une fois, une publicité parfaitement Trente Glorieuse, au sens même si elle n'a pas eu lieu pendant les Trente Glorieuses. C'est-à-dire que, et Forestier le dit d'ailleurs à l'époque, il dit le point mort des Trente Glorieuses, c'est qu'elle pense que le bonheur ne peut être que matériel. Mmh. Ça, c'est ce que dit Raphaël Lorca dans son chapitre sur le bonheur par la consommation. Mmh. C'est la consommation qui va apporter un bonheur. Et Forestier dit à l'époque, un est la spiritualité, deux la question de la joie et de la projection dans un avenir qui ne soit pas qu'un avenir matériel. Ça, la transcendance, ce sont des questions qui étaient complètement mises de côté. Il n'y a pas que l'environnement.
Mais d'ailleurs, vous passez en revue hein, dans le livre Les DS, Les Deux Chevaux, Les Tables en Formica, Les Télés en Noir et Blanc, Les Vacances, Les Clubs Mickey, les films de Gabin, Bourville, Bardot, Delon, Belmondo, les chansons de Johnny, Claude François, Les Bars Tabac. C'était la belle époque ou...
Pour vous, c'était la belle époque, en tout cas, Quentin.
Mais encore une fois, j'ai tout à fait conscience que pour certaines personnes qui l'ont vécu, vous savez, moi je suis né à la fin des temps glorieux, je n'ai pas connu cette période. Mais ça a été une période dans laquelle probablement beaucoup de gens se sont retrouvés, ou en tout cas ont pu communier dans une culture de masse qui émergeait aussi, hein, c'est, faut le dire. L'après-guerre, à partir de 1946 et les années après, bah, ce sont des périodes dans lesquelles tout d'un coup on commence à avoir des références culturelles partagées. Je rappelle quand même que jusqu'au début du XXe siècle, même quasiment jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, une grande partie de la population française ne parle même pas le français. Tout simplement parce que l'école n'a encore pas fait son œuvre, parce que les langues régionales sont importantes et parce qu'il n'y a pas ces masses médias qui vont unir les Français. Donc, encore une fois, qu'on en ait une nostalgie, c'est pas étonnant.
Manon Mariani est-elle vraiment responsable du choix de son sujet aujourd'hui? Ou bien notre rédacteur en chef, Cyril Lacarrière, lui a-t-il imposé de traiter du bikini, l'invention la plus importante du XXe siècle à ses yeux? Réponse juste après Théodora, Congolaise sous BBL, sur Inter.
Baby boo, tu sais, je vaux beaucoup, même si parfois je ne joins pas les deux coups. C'est à cause de mon fiat qu'il éloigne trop mes genoux. Et mes gros seins me font souvent mal au cou. Baby boo, tu sais, je vaux beaucoup, même si parfois je ne joins pas les deux poux. C'est à cause de mon fiat qu'il éloigne trop mes genoux. Et mes gros seins me font souvent mal au cou. Congolis, baby aimerait sa bille. Voici sous Cali, je me lève, je suis déjà belle. Je suis pété sous Cali, pollen, jaune maille à la belle.
On le verra dans quelques instants avec Camille Diao en 46. C'est la première fois que les enfants ont fredonné petit Papa Noël. Ah. Mais il y a eu, Manon, une autre première fois cette année-là.
C'est la canicule en France durant l'été 1946. Et quoi de mieux pour se rafraîchir que d'aller à la piscine? Ça tombe bien. C'est à la piscine Molitor que se déroule la fête de l'eau. Un concours où des mannequins défilent en maillot de bain devant un jury qui doit élire la plus belle baigneuse.
Des belles filles exhibent des costumes de bain devant un public et un jury qui s'intéresse plus au contenu qu'au contenant.
Les remarques bien sexistes de l'époque qui accompagnent les reportages, c'est toujours un petit plaisir. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant, car pendant le défilé, une femme va faire son apparition triangle sur les seins et culotte échancrée. Les spectateurs découvrent pour la première fois le bikini.
Mais voici mieux, cherchez le maillot. Le comique Andrex en est tout scandalisé, mais pas la concurrente qui semble fort satisfaite.
Oui, fort satisfaite. Le plus petit maillot de bain du monde est signé Louis Réard, un ingénieur automobile reconverti. L'idée du bikini lui est venue après avoir vu des femmes sur la plage en train de retrousser leur maillot de bain pour éviter d'avoir des marques de bronzage. Car le maillot de pièce existe déjà depuis les années 30. Il a notamment été popularisé par les pin-up et les actrices de l'époque. Sauf qu'il cache un élément essentiel du corps, le nombril. Les culottes sont hautes, les soutiens-gorge sont bas. On dirait vraiment un maillot de bain, une pièce coupée en deux. Le corps de la femme peut être dévoilé, mais pas trop quand même. C'est donc dans ce contexte encore très puritain que le bikini fait son apparition. Et pour marquer le coup, Louis Réard décide de jouer la carte de la provocation. Déjà, car le motif de son bikini est une toile imprimée d'articles de presse. Un clin d'œil aux médias qui vont en faire leur gros titre le lendemain. Et puis vu qu'aucune mannequin ne voulait défiler en bikini par peur d'être cataloguée trop sulfureuse, Louis Réard a fait appel à Michèle Bernardini, une danseuse nue du Casino de Paris pour l'époque. C'était osé. Et pour finir, le nom qu'il a choisi pour son produit, Bikini, est aussi une référence assez spéciale.
87 ships take positions 3 miles off Bikini to suffer the shattering impact of the fifth atomic bomb.
5 jours avant son défilé à Paris, les Américains réalisaient leur premier essai nucléaire aux îles Marshall dans l'atoll de Bikini. C'est comme ça que le nom est né, avec ce slogan, le Bikini première bombe anatomique. Le coup de com' est pas mal. Sauf que sa sortie ne se passe pas du tout comme prévu. Le Bikini scandalise le monde entier, il est jugé indécent, une tenue qui n'embellit pas la femme, selon le magazine Vogue. Résultat, il est interdit dans certains pays comme l'Espagne, la Belgique ou l'Italie. Aux États-Unis, Hollywood le bannit de ses films et de ses concours de beauté. Chez nous, c'est mitigé, puisqu'il n'est autorisé que sur les plages de Méditerranée et pas sur celles de l'Atlantique. Et c'est justement sur la Côte d'Azur que le bikini va réussir à décoincer les mœurs de l'époque quelques années plus tard, grâce à une actrice, Brigitte Bardot. En 1953, elle pose sur la plage du Carlton en bikini fleuri, tout sourire. La photo est culte, puis 3 ans plus tard, elle portera un autre bikini dans le film Et Dieu créa la femme. Le maillot commence aussi à s'infiltrer dans la musique puisqu'en 1960, Dalida chante Itsy Bitsy, petit bikini.
Elle craignait de quitter sa cabine, elle tremblait de montrer au voisin. 1, 2, 3, elle tremblait de montrer quoi ? Son petit Itsy Bitsy.
Au même moment aux États-Unis, le bikini est aussi en train de gagner en popularité grâce à Marilyn Monroe qui sera la première actrice à oser s'afficher avec. Mais c'est en 62 que le maillot va réellement se démocratiser grâce à une scène de film.
Are you alone?
What are you doing here?
I'm just looking.
Stay where you are.
L'actrice Ursula Andress magnifique sortant de l'eau en bikini blanc sous l'œil lubrique de Sean Connery dans le film James Bond 007 contre Dr No. Les ventes de bikini explosent sur les plages, les femmes ne jurent plus que par lui. Selon le Time, 65% des femmes portent dorénavant ce maillot de bain autrefois si controversé. Plus qu'un simple maillot, le bikini a donc été un symbole de libération pour les femmes dont le corps est sans arrêt soumis à des critiques sexistes et des lois patriarcales. Aujourd'hui, il est porté par sous toutes ses formes, avec toutes ses couleurs, et on peut dire merci aux actrices de l'époque d'avoir osé s'afficher avec.
Et s'il est encore en état, il vous dirait en régie merci. Cyril Lacasse s'est évanoui d'émotions nostalgiques pendant cette chronique.
Andress,
beaucoup trop de souvenirs pour lui, Ursula Andress, Dalida, c'est toute sa jeunesse qui a défilé sous ses yeux. Merci Manon. Vincent Martini, 1946, est-ce qu'on peut dire, ou est-ce que c'est un peu audacieux, que ça marque le début de la libération des femmes ?
Alors oui, on peut le dire d'une certaine manière. D'abord parce que depuis 1945, les femmes ont le droit de vote. Il faut le rappeler, c'est quand même une avancée politique absolument considérable. La France était un des derniers pays avec l'Italie à n'avoir pas accordé le droit de vote. Je rappelle que en Scandinavie ou en Angleterre, c'est entre 1900 et 1920. Donc on a quand même juste 25 ans de retard. Donc à ce titre-là, oui, c'est un début d'émancipation. Michel Perrault, la grande historienne du féminisme qui m'a fait vraiment l'honneur de participer à ce livre, raconte comment dans les 30 Glorieuses et à partir de 46, certains droits progressivement vont être acquis, notamment le droit à conquérir son corps, évidemment. Le droit à l'avortement, qui est un droit fondamental, mais aussi des droits, vous l'avez rappelé dans votre chronique, de s'habiller comme on le souhaite, même si, encore une fois, ces avancées dans les années 40 sont extrêmement timides. La vraie évolution, elle sera après mai 68. Quand on pense d'ailleurs à l'imaginaire des Trente Glorieuses, c'est surtout dans cette partie-là, plan féministe, qu'on se s'accorde là-dessus. Mais Maya Mazorette nous dit aussi que sur le plan de la sexualité, du désir, du consentement, c'est à chaque fois quand même une femme qui s'échancre pour que les hommes la désirent. C'est toujours dans le même sens. À ce titre-là, Là, c'était pas mieux avant.
On revient sur le mythe des 30 Glorieuses avec l'historien des idées Vincent Martini qui a dirigé un ouvrage qui vient de sortir aux éditions du Seuil, Les Temps Nouveaux, en finir avec la nostalgie des 30 Glorieuses. Vincent, le PIB qui croît en moyenne de 5% par an durant ces fameuses 30 Glorieuses, des chiffres qu'on n'avait jamais vus, qu'on reverra jamais, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui et surtout, qu'est-ce qui met un terme à ces 30 Glorieuses ?
Alors, ce qui met un terme à ces 30 Glorieuses, c'est les deux chocs pétroliers déjà, qui en fait transforment complètement le cours de mondial, parce que le rapport à l'énergie, cette énergie qui était illimitée, très peu chère,
là on découvre,
qui permettait tout faire, et qui permet aussi de construire, je rappelle, le pétrole construit le plastique, donc dans une génération du plastique, vous avez aussi toute une série de produits qui coûtent rien du tout. Tout ça va se mettre à coûter beaucoup, et donc avec des conséquences directes. D'autant plus qu'on n'avait pas beaucoup réfléchi à l'industrie, puisque tout ça tournait tout seul, et que les industries vont commencer à décliner, l'industrie du charbon, les mines en général. générale. Et donc, c'est le début déjà de mouvements sociaux très graves qui montrent la mort de mines dans le Nord, et dont vont devoir hériter d'ailleurs les socialistes lorsqu'ils arrivent au pouvoir en 1981. Donc, ce qu'il en reste aujourd'hui, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, il reste énormément de choses, un certain rapport à la consommation, un certain imaginaire de ce que doit être d'ailleurs la croissance ou la prospérité, c'est-à-dire la croissance, le plein emploi dans des conditions telles qu'on les connaît.
Il faut rompre avec ça pour vous ? Ça, c'est vraiment des.
Encore une fois, il ne faut pas forcément rompre avec la croissance.
Mais cette croissance-là.
Pour le dire comme ça, la grosse difficulté des gens qui prétendent ou qui souhaitent une transition environnementale, c'est qu'ils n'ont pas réussi à nous expliquer en quoi, à part la sobriété, c'est-à-dire à part retirer des choses qu'on faisait qu'on n'a plus le droit de faire, on va pouvoir imaginer une société de prospérité, de progrès, qui aurait réussi sa transition environnementale. Et François Gémen et l'ensemble des auteurs, nous croyons qu'au contraire, il faut raconter ce récit de pourquoi ça sera beaucoup mieux et qu'on obtiendra des nouveaux droits, par exemple en ville, le droit de ne pas être consumé par le bruit, le droit de respirer bien, que sont des droits qui paraissent naturels, mais on respirait très mal à Paris dans les Trente Glorieuses. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Le droit que vos enfants, si vous en avez des petits, c'est mon cas, puissent avoir des écoles qui soient un peu des jardins, le droit d'avoir un accès extérieur dans les villes. Tout ça sont des enjeux majeurs pour essayer de se dire
que... quelqu'un qui vit du dans le même arrondissement que moi à Paris. Voilà,
c'est une possibilité, mais il n'y a pas qu'à Paris. Je crois que dans la plupart des grandes villes, les gens le ressentent de manière très forte. Et puis, j'ajoute qu'il faut arrêter de porter l'idée de ce récit avec une culpabilisation uniquement des comportements individuels. Ça veut dire qu'il faut que la politique s'en mêle. Parce que ce livre, vous l'avez compris, c'est un livre politique. C'est pas un livre d'histoire pour parler des Trente Glorieuses. C'est un livre pour dire qu'est-ce qu'on fait maintenant. Et il est politique dans le sens où c'est simplement le récit politique, la société travaille, elle est en train d'avancer sur énormément de sujets. Mais on a le sentiment que le personnel politique ne prend pas le relais pour nous dire en quoi il faut mettre en place, pour la transition environnementale, mais pas que, toute une série d'enjeux qui vont nous permettre de rentrer dans la période dans laquelle on vit. Et à ce titre-là, pour la question environnementale, par exemple, c'est pas forcément les individus qu'il faut aller culpabiliser, même si on doit tous réfléchir à nos façons de consommer, évidemment. Mais c'est aussi les entreprises, les industries qui, elles, doivent faire leur transition. Je crois, et François Gémen le dit, qu'une grande partie d'entre elles sont prêtes à le faire, mais elles ont besoin de gens pour les y aider. Et c'est ça le rôle de la politique. C'est ça qu'on doit tous faire. On doit pousser la classe politique à le faire.
Mais les Trente Glorieuses, c'est quand même assez français. D'autres pays sont en train de vivre leur Trente Glorieuses, le début des Trente Glorieuses. C'est compliqué de leur dire, non, vous n'aurez pas vos Trente Glorieuses.
En fait, la question, c'est qu'on pense que le développement prend toujours la même voie. On pense que la Chine va se développer exactement comme nous, on s'est développé dans les Trente Glorieuses. Mais ce n'est pas vrai, en fait. Les Chinois font aujourd'hui beaucoup plus, notamment pour les éoliennes, pour l'énergie renouvelable, etc., qu'on n'a jamais fait, tout simplement parce qu'eux-mêmes savent, parce qu'ils mettent beaucoup d'argent dans l'innovation, que ce sont des enjeux majeurs, pour eux aussi.
Alors, il vient d'arriver parmi nous dans ce studio et pourtant, tout à l'heure, Charles Nouveau s'absentera pour changer, afin que quelqu'un d'autre nous donne son avis sur les Trente Glorieuses. Mais rapidement, comme ça, pour vous, Charles, les Trente Glorieuses, c'est quoi ?
Alors déjà, j'aimerais dire quelque chose. J'ai mis une perruque aujourd'hui.
Vous êtes marron, vous êtes magnifique.
Merci. Mais alors, c'est tout le problème, c'est qu'à la base, le but, c'était de me rajouter 40 ans et finalement, je constate que ça m'en rajoute 4 tout au plus, ce qui est très frustrant. Et sinon, sur les Trente Glorieuses, je voulais dire quoi ? Alors oui, évidemment, période de croissance, période de prospérité, tout ça, répartition des richesses. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est le nom.
Oui.
Parce que de toutes les périodes de l'histoire, c'est toujours été le nom qui me fascine. Ici, je le trouve très joli, en fait. Trente Glorieuses. Ça pourrait presque être... Si c'était pas un nom de période historique, ça pourrait être le titre, je sais pas, par exemple, d'un roman photo de Frédéric Beck Bédé sur ses escortes préférées de Budapest ou quelque chose comme ça.
Charles Nouveau, il n'a pas son pareil pour rehausser notre émission d'une touche de chic, comme vous le découvrez en fin d'émission et surtout suivez-le en vidéo parce qu'il a un petit bidou qui est vraiment assez sexy.
C'est la seule partie qui n'est pas artificielle.
Excuse-moi, vieux. Pour l'heure, on retrouve notre mélomane du vendredi, Camille Diao, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Camille, cette semaine dans Rétropop, une chanson d'après-guerre qui est devenue un immense classique.
Oui, mais alors d'abord, je dois vous prévenir, cette chronique, c'est un peu comme la Fashion Week. Elle a 2 ou 3 saisons d'avance. Noël, en février, c'est uniquement dans Rétropop. Décembre 1946, un an et demi après la libération et quelques jours avant Noël, débarque sur les écrans français un film qui n'est pas resté, je dois le dire, dans les annales du cinéma, c'est Destin de Richard Potier. Alors, je vous passe le pitch parce que le programme du film, c'est Tino Rossi et encore Tino Rossi. Il faut dire que personne ne s'en souvient ou presque, mais Tino Rossi, en 46, c'est une méga star. C'est une sorte de Don Juan à la voix de velours qui fait rêver toutes les jeunes filles. On le poursuit dans la rue, on hurle son prénom, on arrache sa chemise. En fait, c'est un peu le premier chanteur à midinette. C'est la Beatlemania. Mais avec 15 ans d'avance, vous avez tous sursauté, ça va les oreilles.
Ça c'était les fans des Beatles.
En 62. Donc, Tino Rossi fait vendre et le cinéma, en 46, compte bien capitaliser sur son aura. Dans Destin, il joue les deux rôles principaux, il interprète pas moins de 6 chansons, dont celle qui deviendra, et qui est toujours d'ailleurs aujourd'hui, le titre le plus vendu de l'histoire du disque en France.
C'est la belle nuit de Noël. La neige étend son manteau blanc.
Quelle voix.
Et les yeux levés vers
en 1h30 de film, Tino Rossi interprète cette chanson non pas une, non pas deux, mais trois fois.
Dans le même film.
Dans le même film, c'est un peu poussif, mais ça fonctionne. 3 ans plus tard, il deviendra le premier et le seul artiste français à recevoir un disque d'or en or massif, une sorte de bling avant l'heure.
Donc Tino Rossi, il a plié le game.
Oui, il met à l'amende Nino, Jules et Soprano réunis. Et c'est d'autant plus fou que cette chanson, au départ, elle n'était pas promise à un tel destin. En fait, elle a été écrite 2 ans plus tôt, en 44, pendant la guerre, pour un autre chanteur du nom de Xavier Lemercier. Même titre, même mélodie, mais les paroles, c'est une autre ambiance.
Il ne faut jamais jouer à la guerre, ça fait pleurer les mamans.
Alors dans cette version-là, non seulement l'enfant ne veut surtout pas voir de petits soldats sous le sapin, mais la seule chose qu'il demande au Père Noël, en fait, c'est le retour de son père, qui est prisonnier de guerre.
Et pour que maman ne soit plus si triste, fais revenir mon papa.
Et bien forcément, ça en 46, c'est devenu anachronique. Alors, pour les besoins du film, Tino Rossi, qui a quand même flairé le potentiel commercial de la chanson, réclame de nouvelles paroles. Donc le morceau est réécrit, expurgé de toute référence à la guerre, et ça correspond vraiment à l'air du temps. La société française veut tourner la page.
C'est les lendemains qui chantent, là.
Exactement. On veut de la légèreté, on veut de la douceur, et ça passe évidemment par la musique. Pendant l'occupation, on écoutait des airs beaucoup plus mélancoliques.
Je suis seule ce soir.
Voilà, quand Léo Marjane chante seul ce soir, bah ça forcément ça parle aux femmes des prisonniers de guerre. On se réconfortait aussi avec des odes à la France d'avant la guerre.
Douce France, cher pays de mon enfance.
Cette chanson, pour la petite anecdote, Charles Trenet l'inaugure sur la scène des Folies Bergères en 43 avec quand même quelques soldats allemands dans le public. Mais après-guerre, dans la playlist des Français, plus question de nostalgie, ça chante l'amour et ça chante la fête.
Samedi soir où le cœur plein d'espoir danse les midinettes, pas de frais pour la toilette.
Georges Guettari chante le petit bal du samedi soir, Tino Rossi l'esprit de Noël et très bientôt Edith Piaf verra la vie en rose.
Donc petit Papa Noël s'est vendu grâce à toutes ces good vibes.
Bah, ça suffit pas complètement à expliquer un tel succès. Faut savoir que Noël, pendant la guerre, ça a été un instrument important de la propagande de Vichy. Le régime s'en servait pour promouvoir la famille et les valeurs chrétiennes. À l'école, la morale religieuse était de retour dans les programmes et pour Noël, les écoliers français entamaient des cantiques chrétiens.
C'est la version Coco Melon, ça.
C'est la version des prêtres. Alors, quand Tino Rossi débarque en 46 avec un chant de Noël laïque, bah, c'est une aubaine pour le nouveau gouvernement qui veut réaffirmer la laïcité à l'école. En plus, Tino, il est fréquentable. Même si on l'a soupçonné un temps d'avoir collaboré pour pouvoir poursuivre sa carrière tranquillou comme de nombreux artistes, il a pu, à la Libération, au contraire, prouver qu'il avait filé des coups de pouce à la résistance. Ça permet à sa chanson de faire son entrée dans les salles de classe, dans la droite ligne d'une quinzaine de l'école laïque que le gouvernement organise en 46. Donc en fait, bien plus qu'un chanteur à midinette devenu sur le tard un chanteur à papa, Tino Rossi, c'est aussi celui qui a accompagné en musique la sécularisation des fêtes de Noël. Et c'est ainsi que le divin enfant s'est fait grand remplacé par un vieux barbu.
Et donc là, c'est le moment où on écoute Petit Papa Noël, c'est ça ?
Oui, alors c'est sympa Tino Rossi, mais c'est un tout petit peu vieilli. Heureusement, il y a plein d'artistes qui l'ont repris, Petit Papa Noël, de Mary J. Blige à Trust. Et moi, je vous propose d'écouter la version que je préfère, c'est la reprise d'Arthur H.
C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois sans rêve et que je t'ai commandé. Avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit sourire. Le marchand de sable est passé, les enfants vont faire dodo, et tu vas pouvoir commencer avec ta hotte sur le dos, au son des cloches des églises. Ta distribution de surprise. Et quand tu seras sur ton beau nuage, viens d'abord sur notre maison. Je n'ai pas été tous les jours très sage, mais j'en demande pardon.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
L'absence de Charles Nouveau laisse évidemment un vide émotionnel et comique dont nous mettrons tous sans exception plusieurs mois à nous remettre, mais c'est aussi pour nous l'opportunité d'accueillir un invité supplémentaire dans cette émission consacrée aux 30 Glorieuses, Jean-Marie Tocracy. Bonjour.
Bonjour Jonas.
On vous a fait venir parce que vous avez une particularité. Vous êtes né à la fin de la guerre et vous faites partie de ces gens, cette génération qui ne se vexe pas quand on vous dit que vous êtes un boomer.
Parce qu'il n'y a pas de raison de mal le prendre, tout simplement. Hein. Baby boomer, à ce que je sache, ça ne veut pas dire qu'on enfonce des bâtonnets de dynamite dans des nouveau-nés. Hein, non. Alors, les gens qui le prennent mal, c'est les gens qui écoutent des petits jeunes comme vous, Mathieu Joël, hein, qui leur font croire qu'ils ont été avantagés par leur époque et qui devraient s'en vouloir.
Donc vous réfutez cette idée. Pour vous, c'était pas une époque facile ?
Ah non, pas du tout, c'était génial, on s'est régalé. Moi, ce que je revendique, c'est qu'on n'ait pas à se sentir coupable. Voilà. Mais en termes d'opportunités, il n'y a pas à dire. Moi, j'ai eu mon baccalauréat, c'était quoi ? C'était en 63, la même année que Cyril Lacarrière. Filière arithmétique et soudure. 2 ans plus tard, j'étais cadre supérieur dans la finance. Et encore, j'avais pris du retard à cause du service militaire. Mais ça allait plus vite à l'époque. Ils n'avaient pas encore inventé les stages, tout ça. J'ai un ami qui comprenait l'anglais, il ne le parlait pas. Il le comprenait. Après le bac, il a failli faire ministre des Affaires étrangères. Avant qu'on ait marché sur la Lune, j'avais déjà une bagnole, un appartement, une femme, 2 enfants et une maîtresse. J'étais quelqu'un d'accompli. Voilà, comme tant d'autres. Et si à un moment donné, on trouvait que c'était trop de responsabilité, parce que c'était beaucoup de responsabilité, hein, c'est toi qui devais gérer le compte en banque et les papiers de ta femme, par exemple, on pouvait ramasser ses affaires et partir, sans rien dire à personne. Hein, c'était une option, il n'y avait pas Facebook, hein, ils n'allaient pas te retrouver, même pas obligé de changer de ville, hein, tu pouvais juste changer d'arrondissement. On se sentait intouchable, le chômage était à moins de 2%, tu pouvais conduire à 2 pour 1000, on venait d'avoir l'arme nucléaire et Johnny Hallyday, il ne pouvait rien nous arriver. Peut-être un peu naïf avec le recul. Hein, on pensait que les cigarettes étaient bonnes pour la santé, que le diesel était bon pour la planète, que la ceinture de sécurité c'était pour les homosexuels et que le nazisme ne reviendrait jamais à la mode. On ne savait pas tout, c'est vrai. Mais du coup, tout était à la fois moins angoissant.
aussi. Hein. On faisait l'amour sans préservatif, bien sûr. Il y a même eu une période clé où on était pile entre l'invention de la pilule et la découverte du sida. Alors là, les planètes s'alignaient totalement. Timing parfait, golden hour, golden shower même pour certains, pour les plus libérés d'entre nous. Les gens avaient bien moins honte de leur corps qu'aujourd'hui, alors qu'ils en prenaient bien moins soin. Parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux pour se comparer, tout ça. Le top de la virilité quand on était petit, c'était Jean Gabin, Lino Ventura, donc des types avec du ventre et des nez tordus, hein, n'est-ce pas ? Tu pouvais rentrer dans une orgie avec l'assurance que tout le monde avait déjà vu pire que toi. Ça, c'est pas inintéressant. Aujourd'hui, je doute que les gens abordent les orgies avec autant de confiance en eux. Je vous le souhaite, mais j'en doute. Je ne sais même pas si ça se fait encore, les orgies.
Mais rassurez-moi, vous êtes conscient que cette période, elle n'était pas glorieuse pour tout le monde.
Oui, bah forcément, pour les femmes, les tatas, les Algériens, les gauchers aussi, les gauchers, et ceux qui cumulent hein, plusieurs mandats là, dans le tas, c'était compliqué. Aujourd'hui, c'est un peu mieux, notamment pour les gauchers, hein, depuis le boom du paddle tennis.
Le paddle tennis.
Je vous l'ai dit, votre génération ne me culpabilisera pas, okay. Monsieur Joël, puisque je compte quitter ce monde avec la certitude, légitime ou non, que vous auriez fait pareil à notre place.
Ça, c'est probable. Merci beaucoup, Jean-Marie. Et on embrasse quand même Charles Nouveau, qui vient plus très souvent. Il vient plus très souvent, il envoie des amis à lui. Charles Nouveau, qui n'est pas là, mais qui tourne avec son spectacle L'expression de mes sentiments distingués.
Joli titre.
Le 14 à Poix-d'Arcy, le 19 à Troyes, les 20 et 21 à Reims, notamment. Merci encore. Merci beaucoup, Vincent Martini, d'être venu nous raconter les 30 Glorieuses et surtout ce qu'on peut en faire aujourd'hui, cet héritage des 30 Glorieuses pour essayer de se réinventer. Je rappelle le titre du livre que vous avez dirigé, Les Temps Nouveaux, en finir avec la nostalgie des 30 Glorieuses, c'est aux éditions du Seuil. Et je signale, pour ceux qui, comme moi, aiment la bamboche, qu'on peut vous retrouver demain à partir de 15h au Théâtre de la Concorde à Paris pour une fête du lancement du livre ouverte à tous, et en plus c'est gratuit.
Alors c'est gratuit, et il y aura aussi des tables rondes, des discussions, des concerts avec le groupe Tempo Tempo Fixie, notamment pour ceux qui vous écoutent, et je suis sûr que ça sera très bien et très intéressant, donc vraiment venez nombreux.
Un beau moment de bamboche, enregistré certainement, vous savez moi j'adore ça. Ouais. Merci ouais. Encore, merci à tous les amis, Manon, Camille, Quentin, Charles et tous ceux qui font cette émission en régie, Florence Dumalac, Stéphanie Valois, Pierre Courade, Romain Bonifaci, Lola Auvert et Gérald Darnaud. À la réalisation, c'était Ghislain Fontana, à la technique Gilles Gaillard. On se retrouve lundi pour zoomer sur un mot dans l'air du temps, vraiment pour le coup, pas comme agence matrimoniale. Dans lundi, on est pile dans notre cahier des charges puisqu'on va zoomer sur le paternage, quand les pères prennent enfin leur responsabilité. Zoom, zoom, zen.